voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Dominique Blanc. Ce soir, jouer pour trouver un regard.
Bonsoir Dominique Blanc.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir dans votre loge ici, à la Comédie Française, aux Français, comme on dit plus intimement, cette troupe que vous avez intégrée, où vous rayonnez depuis 2016. Alors dans Britannicus de Racine, vous êtes entré avec ça, Oncle Vania de Tchekhov, pour ne citer que dernièrement, dans Poussière de Lars Noren. Alors dans de très nombreux articles de presse qui évoquent votre parcours d'actrice, et il s'étale sur plusieurs dizaines d'années, on trouve des titres comme Dominique Blanc, actrice majuscule, Dominique Blanc, la magnifique, mais aussi Dominique Blanc, la discrète.
Oui.
Et c'est vrai, on s'y semblerait que ce parcours de comédienne que vous avez, qui a commencé en 80, on peut le dire.
Oui, tout à fait, oui, oui.
Eh bien, ce parcours-là, nous allons nous y promener ensemble cette semaine. Alors, il est très, très difficile en réalité. Je me suis prêtée à l'exercice, comme le veut l'usage, d'essayer de le présenter en quelques dates. Ici, on parle de 70 rôles au cinéma et à la télévision, j'ai compté, une trentaine au théâtre, auxquels vous avez prêté vos yeux, votre voix, si reconnaissable, si précise, si polymorphe. Cette voix-là qui, pour certains, restera à jamais celle de Phèdre, que vous avez incarnée en 2003 sous la direction de Patrice Chéreau à l'Odéon, metteur en scène, réalisateur qui a eu un rôle déterminant, on va le voir, dans votre carrière, qui vous a dirigé au théâtre et aussi au cinéma. Le cinéma, on vous a vu beaucoup, entre autres chez Régis Varnier, à vos débuts, tout récemment dans « Réparer les vivants » de Catel qui verrait, mais aussi, bien sûr, dans « Milou en mai » de Louis Malle, la trilogie de Lucas Bellevaux, « Stand by » de Roch Stéphanie, qui vous a valu le César de la meilleure actrice en 2001. Alors, on l'aura compris, cette liste est nécessairement non exhaustive, car ce parcours, cette carrière, ils sont faits de choix très audacieux, très curieux. Ils dessinent un chemin assez singulier, à un rythme, certaines années, quand on regarde votre parcours presque staccanoviste, comme s'il y avait une forme d'obstination à jouer et à explorer chez vous, et jamais, jamais dans la facilité. Alors, à quel moment de votre vie de jeune fille, de petite fille, vous avez compris que vous vouliez jouer ?
Alors, pour être honnête, la toute première fois, je pense que c'est lorsque j'avais une dizaine d'années. Voilà, on a dû travailler une pièce de Molière au collège. Et en vacances, partie avec des copines, j'avais décidé que j'allais les mettre en scène. Je ne sais plus si c'est dans Les Précieuses Ridicules ou dans Les Femmes Savantes, un des deux. Mais à l'époque, j'étais metteuse en scène, j'étais pas comédienne. C'est vraiment à cet âge-là que ça a commencé. Après, le rêve a disparu et puis il est revenu au moment de l'adolescence, vers 15-16 ans, quand on se sent pas forcément très très bien dans sa peau. Et alors là, il y a eu de nouveau une envie de jouer, en fait. Et là, je suis allée dans un cours où était une personne qui est toujours en vie, qui est très âgée maintenant et qui est devenue aveugle et qui s'appelle Janine Berdin. Et elle est la première personne avec laquelle il y a eu tout d'un coup un déclic, un regard et puis tout d'un coup un sentiment de bien-être gigantesque à être sur un plateau et à raconter une histoire.
Parce que du coup, c'était ça, cette histoire, c'était une recherche de bien-être, de regard. Vous le dites souvent, ce mot, dans les interviews.
Oui.
Chercher un regard.
Oui, c'est ça. Bah, je viens d'une famille nombreuse où effectivement, bah, le regard est démultiplié. On a le sentiment que on n'existe jamais assez finalement. Donc, quand il y a un regard qui vous perce de façon un peu particulière, on a l'impression d'exister mille fois plus. C'est important.
Très important. Alors ouais. À ce moment-là, vous avez 15 ans. Il se passe ce déclic. Est-ce que vous vous dites, je veux en faire ma vie ?
Oui, alors, ce qui se passe, c'est que je vais jouer à ce moment-là le journal d'Anne Frank. C'est ce que me confie Janine Berdin. Et sur le plateau, j'ai le souvenir qu'elle elle remplace la comédienne, enfin la jeune femme qui jouait ma mère. Et elle se met à jouer avec moi. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, tu sais, il faut que tu racontes à tes parents, il faut absolument que tu passes le conservatoire de Lyon. Et moi, je devais être en seconde à ce moment-là. Donc, faut que t'en parles à tes parents, faut faire ça tout de suite. Ça m'était pas venu à l'idée de façon aussi impérieuse. Donc, je rentre chez moi et je dis à mes parents, je vais présenter le conservatoire de Lyon. Alors là, catastrophe. Là, ça s'est très, très mal passé. Mon père et ma mère sont ébahis. Non, c'est hors de question, on n'en parle même pas. Mais d'où est venue cette idée ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où ça sort ? Tu passes ton bac et puis on verra bien ce que tu feras après. Voilà. À l'époque, je suis en seconde C. Et mon père doit me dire un truc du genre « passe ton bac ou alors tu prends la porte ». Parce qu'il devait être de très bonne humeur ce soir-là. Et je dois dire que la perspective de me retrouver sur le trottoir à 15 ans, ouh, je me suis dit « là, c'est un peu tôt quand même ». Donc, bon, j'ai un peu ravalé tous mes rêves. J'ai dû finir mon année chez Janine Berdin et puis ça s'est arrêté là. Et puis après, je me suis inscrite dans des cours d'expression corporelle. Parce que j'avais le sentiment que j'étais très coincée, j'étais surtout extrêmement timide. Je crois que c'est surtout ça qui m'handicapait beaucoup, parce que je n'étais pas enfant. Et là, je vais tomber sur un professeur qui va devenir tout à fait illustre bien plus tard, qui est le personnage d'Orlan. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelle Orlan à l'époque, mais elle n'est pas encore l'artiste qu'elle est devenue par la suite.
Plasticienne qui a beaucoup travaillé sur son propre corps.
Voilà, dont le corps est devenu une œuvre d'art, plusieurs œuvres d'art d'après sa démarche.
Donc vous avez eu toutes ces expériences-là, importantes donc. Et finalement, vous passez votre bac et vous vous inscrivez en école d'architecture.
Oui.
Donc, pas du tout de théâtre à ce moment-là.
Non, pas du tout. En fait, j'étais scientifique, donc j'ai beaucoup réfléchi. Mes rêves ont beaucoup bougé. En fait, je rêvais aussi de psychiatrie, mais je savais que les études allaient être longues. Donc, ça me faisait un peu peur. Je savais aussi qu'il fallait entamer une psychanalyse, tout ça. Bon, j'avais l'impression que j'allais étudier pendant des années. Donc, finalement, je me suis orientée vers l'architecture. J'étais assez fascinée par Bruno Bettelheim, qui, à ce moment-là, faisait beaucoup d'expérimentations, évidemment, avec des enfants autistes et travaillait notamment avec des architectes. Et j'avais trouvé ça tout à fait extraordinaire qu'on puisse, par l'espace et par l'architecture, faire œuvre de thérapie, si vous voulez. J'ai trouvé ça génial. Donc je me suis dit, je m'inscris. Donc je me suis inscrite à l'unité pédagogique, on appelait ça l'UP à ce moment-là, de Lyon, où on était une centaine d'étudiants.
Qu'est-ce qui a fait que plus tard, après, on vous retrouve à Paris faisant du théâtre? Pourquoi ça n'a pas marché, ces études d'architecture? Pourquoi est-ce que...
Alors, ça s'est soldé au bout de 2 ans. Il y avait donc une centaine d'étudiants. On devait être à peu près 7 à 8. 8 jeunes femmes. On était loin de la parité. Et 2 étudiants antillais, je crois. Et un jour de révolution où les jeunes femmes qu'on était trouvaient qu'on n'était pas assez bien traitées, et on n'était pas traitées à l'égal des garçons, vous imaginez, je vous parle de ça il y a vraiment très très longtemps, on a décidé, les 7-8 qu'on était, de prendre notre directeur d'école en otage. Donc nous l'avons pris en otage dans son propre bureau. C'est un scoop. Il y avait un frigidaire avec une bouteille de champagne à l'intérieur. Nous l'avons bu. Et puis après, on était assez embarrassés, en fait. On savait pas quoi faire de ce directeur. Donc ça a duré une journée. Puis après, on a dû le relâcher, je pense. Et notre sort ne s'est pas amélioré. Mais quand j'ai voulu m'inscrire ensuite à Paris, en unité pédagogique, à ce moment-là, spécialisée, parce qu'il y avait une fac qui était plutôt très féministe, à ce moment-là, mon dossier s'est perdu. Entre Lyon et Paris. Voilà, donc je suis arrivée à Paris et j'avais pas grand-chose à faire, donc je me suis inscrite à l'école du Louvre où je suis allée à quelques cours et puis je me suis inscrite aussi dans un tout petit cours d'art dramatique où les cours étaient donnés par un ancien copain de Charles Dullin, un acteur très très âgé. Mais je me sentais pas forcément très très à l'aise à l'intérieur de ce cours et puis je me sentais... c'était pas tout à fait ça. Et puis, en allant chercher des listes de cours d'art dramatique classées par arrondissement, tout à fait par hasard, je tombe sur l'intitulé du cours Florent, dont j'ignore à l'époque que c'est le cours à la mode, et qu'en plus, il se trouve dans l'île Saint-Louis, qui est quand même un des plus beaux lieux de Paris. Donc là, j'arrive dans le cours de François Florent, et là, je vais présenter un poème, faire des improvisations. Je sors de là absolument terrorisée en me disant « Non, mais je me trompe, c'est pas du tout ça que je voudrais faire. » Mais en fait, le feu a pris, déjà.
Le feu a pris.
Voilà.
Et lui, donc François Florent,
oui,
vous repère.
Il me repère, je dois dire tout de suite. Il me fait faire un certain nombre d'improvisations, des scènes à travailler. Et puis ça, c'est au cours de l'après-midi, vous voyez. Donc l'après-midi, c'est un cours où il y a une jeunesse dorée qui s'ennuie un peu. Je me sens très mal à l'aise. Et en plus, moi, je suis obligée de travailler pour payer mes cours parce que mes parents ont décidé que si c'était ça que je voulais faire, c'était à moi de m'assumer. Je fais tout un tas de petits boulots et je ne reviens pas au cours Florent. Donc Florent va me rappeler au téléphone et me dire « Mais je comprends pas, pourquoi on t'a pas revu, pourquoi t'es pas revenu ?» Et il me propose de venir au cours du soir. Là, ça va devenir beaucoup plus intéressant parce que je me retrouve avec des gens qui bossent dans la journée. C'est tout à fait mon univers. Et c'est en plus des gens qui sont souvent très, très motivés. Donc, le soir, c'est un climat dans lequel moi, je vais vraiment me plaire.
Ce François Florent, il vous repère, il vous soutient. Mm-hmm. Vous travaillez à côté. Et ça va être dur. Vous n'allez pas, au début, avoir, on va dire, de succès, au sens où à chaque fois que vous vous frottez un regard extérieur, c'est dur au début.
Ah oui. Ça va être dur et puis ça va l'être pendant un certain temps, en fait. Ça va représenter, je dirais 3-4 années, hein, ou de rendez-vous de casting, en rendez-vous avec des metteurs en scène, rien ne se passe jamais. C'est-à-dire que je rate un peu tout, à la fois les auditions, les rendez-vous, je fais des photos, j'ai l'impression que ça ne va pas. Quand je montre mes photos, on me dit « mais vos photos ne vous ressemblent pas ». Enfin, si vous voulez, rien ne fonctionne. C'est une période assez dure et j'en parle très volontiers parce que je pense que les gens s'imaginent pas à quel point ça peut être douloureux. Parce que finalement, on est rejeté en permanence. Et je pense que la difficulté est tout aussi grande actuellement, si ce n'est plus d'ailleurs, pour les filles, parce que les rôles féminins ne sont pas forcément plus nombreux. Par contre, il y a de plus en plus de filles qui souhaitent être comédiennes. Et je pense que la sélection est toujours aussi dure, si ce n'est pire qu'auparavant.
Pourquoi c'est plus dur pour une femme? Vous le dites souvent, ça.
Parce que les rôles sont moins nombreux. Et si on considère... Les tranches d'âge, souvent, une femme, après le premier enfant, aura tendance à abandonner, parce que ça sera beaucoup plus difficile. Ça sera plus difficile matériellement, ça sera plus difficile de s'absenter quand on a un enfant, on peut pas partir en tournée, c'est plus compliqué. Donc c'est souvent beaucoup plus dur. Et puis il y a ces critères physiques totalement aberrants qui font qu'il y a des physiques à la mode et d'autres non. Donc il y a des physiques qui vont fonctionner tout de suite, et puis d'autres qu'on n'a pas envie de voir, et donc on est mis de côté.
Et vous, ces interrogations ou cette difficulté qu'avaient les directeurs de casting à vous mettre dans une case sur votre physique, comment est-ce que vous les avez vécues à ce moment-là?
Très mal. Très mal. Je pense que c'est une période dans la vie, sans lire forcément en entier le complexe du homard de Françoise Dolto, je pense quand même que c'est une période où on est extrêmement vulnérable. Parce qu'on sort de l'enfance, on est dans l'adolescence, la fin de l'adolescence, disons. Mais il est clair que le monde des adultes ne vous accepte pas. On est renvoyé sans cesse à sa solitude. Moi, je connaissais personne sur Paris, ma famille était à Lyon. J'avais beaucoup de mal comme ça à me faire des amis, parce que quand vous travaillez dans la journée et puis que vous faites des cours le soir, c'est compliqué. Donc c'était vraiment une période de solitude très difficile, et chaque fois je présentais le conservatoire et je le préparais avec François Florent, et qui me disait chaque année « tu vas le rater, mais c'est pas grave, il faut qu'on voit ta gueule ». Voilà, c'était le commentaire qu'il faisait tout le temps, et effectivement je l'ai passé 3 fois d'affilée.
Avec à chaque fois que vous présentiez des choses différentes.
Ah oui, j'ai essayé la tragédie, j'ai essayé la comédie, nous avons fait vraiment, on a bien réfléchi avec Florent. On a bien étudié le dossier, mais non, ça n'a pas marché. Et alors, la dernière année, je l'ai raté, m'a-t-on dit après, à une voix près. Mais ça a été ma chance, c'est finalement devenu ma chance. Mais en même temps, quand la jeunesse, comme ça, après le spectacle, m'attend et puis me pose des questions et me dit « Ah, mais comment faut faire maintenant ?» et tout ça, je me sens encore très proche de cette période, parce qu'effectivement, il n'y a pas de recette. Si ce n'est un journaliste qui m'avait dit « De toute façon, la chance passe, elle finit toujours par passer, mais quand elle passe... » Ne la regardez pas passer, jetez-vous dessus. Je peux confirmer qu'effectivement, elle passe et elle passe plusieurs fois. Moi, en l'occurrence, elle est passée plusieurs fois. Elle s'est appelée François Florent, elle s'est appelée Pierre Roman, elle s'est appelée après Patrice Chéreau, mais elle est vraiment passée. Et c'est vrai que quand elle est là, faut être actif.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de Pierre Roman? Pierre Roman qui aujourd'hui n'est plus et qui a joué un rôle très important à ce moment-là aussi de votre vie, qui ouais. Lui aussi vous regardait.
Alors Pierre Roman était comédien, il avait fait le conservatoire de Lyon, il était plus âgé que moi, était lyonnais aussi, et puis il avait fait le conservatoire de Paris, où il s'était trouvé, je crois, en classe avec Isabelle Huppert, Nada Strancard, et toute une joyeuse bande. Et puis, quand je l'ai rencontré, il était professeur chez Florent, donc c'était la première année de la classe libre, et en somme, c'était la première fois que lui s'essayait à enseigner. Donc il était certainement assez fragile dans la fonction qu'il débutait, mais en même temps il était extrêmement intuitif, Il avait perçu les 25 étudiants que nous étions. Je crois qu'il nous avait tous assez bien sondés. Et il nous faisait faire beaucoup d'improvisation. Et le thème de cette année de travail, c'était Tchekhov. Donc, on avait beaucoup travaillé pas mal d'auteurs différents, beaucoup d'improvisation. Mais il y avait au bout de ça un spectacle à fournir qui serait joué à l'Espace Cardin et qui s'appellerait « Les jours et les nuits », comme la pièce que Treplev écrit dans « La mouette ». Et donc, il nous a dirigés pendant un an. Et ça a été pour moi même très fort, parce que c'est la première fois que je me sentais aussi proche de quelqu'un par la sensibilité. D'abord, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais choisie et puis reconnue telle que j'étais, c'est-à-dire tout entière. Pierre avait beaucoup d'humour, il avait beaucoup de délicatesse, il savait très bien nous prendre, en même temps, il nous mettait en boîte, en même temps... Il nous dirigeait de façon assez pointue, il nous emmenait assez loin dans la direction de comédien. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Je pense qu'on était tous un peu amoureux, filles et garçons réunis, de Pierre.
À la fin de cette fameuse année et de cette représentation sur Tchekhov, il se passe des choses, on va en reparler.
Oui.
Mais vous m'avez dit aussi que pendant ces années à Florent, vous travaillez, vous êtes seule à Paris, il y a tout ce dont on vient de parler, mais vous avez monté une troupe, je crois.
Ah oui, aussi. Oui, oui, on a fait ça aussi. Avec des élèves du cours, Florent, on avait décidé qu'on allait tout faire nous-mêmes. Donc, on allait vendre des spectacles par téléphone et on allait créer une petite troupe. Mais je crois que ça s'appelait les Turlupins, un truc comme ça. Et on a monté deux spectacles et on allait les jouer sur des parkings dans les Vosges parce que celui qui dirigeait la troupe était d'Épinal. On faisait les costumes et les décors. Enfin, c'était vraiment façon Molière. C'était le rêve de Molière qui devenait réalité. On était sur les routes, on était tous ensemble. On est arrivé quand même à jouer dans le festival de Paris, festival du Marais, je crois. Et puis on a dû vendre le spectacle quelques fois. Mais alors le matin, on prenait le téléphone, on appelait les municipalités et on vendait notre spectacle. On faisait tout nous-mêmes. Mais bon, ça n'allait pas nous mener très loin. Effectivement, ça ne nous a pas mené très loin. Mais on ne s'est pas perdu. On s'est retrouvés dans le métier plus tard, en fait, à des postes différents.
Et ça, c'était quoi? C'était une manière de faire les choses et de ne pas attendre le désir des gens, justement?
Oui, oui. Puis c'était vraiment... on avait tous vu le film de Mouchkine, Molière. Et il y avait ce rêve, un peu de communauté, de vivre ensemble et puis d'être sur les routes et de faire l'essence même de ce métier, c'est-à-dire jouer tous les soirs, et puis le lendemain matin, replier la roulotte et partir sur les routes. Vraiment, c'était le rêve. C'était vraiment nourri du film de Mouchkine.
C'était qui les gens qui vous faisaient rêver? C'est-à-dire que dans cette période-là où vous êtes donc une jeune comédienne, apprentie comédienne, est-ce que vous allez au théâtre? Est-ce que vous allez au cinéma?
Au théâtre, il faut dire qu'à Lyon, quand j'étais adolescente, j'ai été très gâtée parce que j'étais abonnée plus ou moins systématiquement au Théâtre des Célestins où il y avait tous les classiques qui passaient. Donc moi, je devais avoir, à ce moment-là, j'étais en 6e, 5e, vous voyez. J'ai dû voir des spectacles de la Comédie Française, sûrement. J'ai dû voir des classiques, beaucoup. J'ai vu des choses au Théâtre du 8e qui étaient formidables. À ce moment-là, c'était Marcel Maréchal. Je me souviens de Bernard Ballet et de Marcel Maréchal venant faire un débat dans notre classe. Ça comptait beaucoup pour moi, ça. Et puis, j'ai assisté, presque par hasard, à Massacre à Paris, au TNP, mis en scène par Chéreau, grâce à une voisine qui avait deux places. Elle était malade, elle ne pouvait pas y aller, elle me les a données. Au dernier moment, je me suis retrouvée à découvrir ça. Je ne sais pas, je devais avoir 15 ans à l'époque.
Ça vous a fait quoi?
Un choc. Un très grand choc, parce que le spectacle était une espèce de cauchemar noir, comme ça, qui se passait beaucoup dans l'eau. C'était le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce qui deviendra plus tard, entre autres, évidemment, la reine Margot.
Puisqu'on parle de Patrice Chéreau, cette fameuse science dont on parlait tout à l'heure, elle est venue, vous l'avez dit, par François Florent, puis par Pierre Roman, qui vous dirige dans cette fameuse production autour de Tchekhov. Et c'est là qu'arrive une troisième chance, qui est une chance capitale.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puisque c'est là que Patrice Chéreau vous a repéré.
Oui. Alors là, nous sommes 25 à jouer un montage entre Platonov et Ivanov à l'Espace Cardin. Et ce soir-là, donc on joue le lundi, mardi, mercredi. Et le lundi, en fait, Chéreau est à Bayreuth à ce moment-là. Mais il est ami de Pierre Roman. Il est très intéressé par Pierre en tant que professeur. Et donc, il lui a promis qu'il viendrait voir son spectacle. Et effectivement, le lundi soir, il fait un aller-retour en avion et il est dans la salle à l'Espace Cardin pour nous découvrir tous.
Vous le saviez ?
Oui. Donc, évidemment, on est tous morts de peur. On a un trac terrible. Le spectacle se déroule très bien. Je pense qu'après, Chéreau a dû s'enfuir très vite. Ce soir-là, il y a quelques agents, quelques directeurs de casting qui viendront aussi le lendemain et le surlendemain. Et puis, on n'en sait pas plus, hein, parce que Pierre est assez mystérieux. Il dit que Chéreau a beaucoup aimé notre travail et puis on n'en saura pas davantage.
Et que se passe-t-il ?
Alors après, ce qui se passe, c'est qu'il y a les vacances et puis l'été. Et à la rentrée au mois de septembre, quand j'arrive chez moi, sur le répondeur, il y a une voix... une très belle voix, qui dit « Je suis Patrice Chéreau et j'aimerais beaucoup vous rencontrer ». Et là, ça me paraît totalement irréel. J'ai l'impression que c'est une très mauvaise blague que me font mes copains. Et en fait, c'est tout à fait juste. Donc, je téléphone à Pierre et Pierre me dit « Mais dépêche-toi d'appeler ». Je fais le numéro immédiatement et j'ai rendez-vous, je ne sais pas, peut-être 2 jours après, rue de Braque, là où habitait Patrice Chéreau. Et là, ça va durer une après-midi, à peu près deux heures de temps, où il m'explique ce qu'il va monter, donc cette pièce fleuve absolument extraordinaire qui est Peer Gynt d'Ibsen, donc la vie d'un homme de 18 à plus de 80. Il voudrait faire ce spectacle sur 2 soirées, chacune de 4 heures durant. Et c'est Gérard de Sarthe qui tient le rôle principal. Il est entouré d'une 20aine de comédiens qui sont évidemment les meilleurs comédiens et comédiennes du moment. Et il me propose de participer à cette aventure absolument incroyable, avec des tout petits rôles, en incarnant à chaque fois de tout petits rôles. Et moi, je lui dis oui. Il me dit, mais vous n'avez pas lu la pièce. Je lui dis non, mais c'est pas grave, je dis déjà oui. Je dis oui, puis je lirai après. On a beaucoup ri, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée début janvier de 81, avec toute cette distribution autour d'une table à l'IRCAM, où a lieu la première lecture de Peer Gynt.
La première lecture de Peer Gynt. Ça, je pense qu'on va en parler, parce que ça marque le début d'une longue période, notamment au théâtre de Nanterre-Amandier, qui ensuite va se prolonger. Il y a eu cette expérience-là, vous avez saisi cette chance au vol, et vous disiez d'ailleurs dans une interview que Patrice Chéreau vous parlait, essayait de vous concerner sur cette pièce, comme si vous teniez un rôle principal. Mm-hmm. Et ensuite, a lieu cette expérience qui dure assez longtemps, je crois.
Un an.
Oui. Un an entier. Oui. Vous apprenez beaucoup.
Oui.
Puisqu'on termine là-dessus, puisque ce sont vos débuts et que les débuts, c'est toujours comme ça, il y a cette chance. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Alors après, c'est retour à la case départ, parce qu'en fait, tous les comédiens qui sont sur la distribution sont évidemment programmés très longtemps à l'avance. Donc, ils ont tous énormément de projets. Et moi, je suis la seule à n'en avoir aucun, parce que je démarre comme ça dans une espèce de miracle. Mais après, il s'ensuit rien du tout. Tout Paris et toute la profession a vu ce spectacle, mais moi, je n'ai aucune proposition derrière. Donc, je vais écrire à pas mal de metteurs en scène. Je vais aussi prendre mon téléphone et puis chercher du travail. Je me rappelle un matin avoir téléphoné à Claude Régis à 9h du matin. Je ne sais pas comment j'avais eu son téléphone pour lui expliquer que je cherchais du travail. Il était assez interloqué, d'ailleurs. Mais bon, il y a des matins, j'avais du courage. Il y a des matins, j'avais pas de courage du tout. Je suis complètement déprimée. Et puis, je me disais, bon, ben, ça va s'arrêter là. Et puis, il y a quelqu'un qui va répondre, en fait. Et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui n'est plus là, mais qu'il faut pas oublier, qui s'appelle Bruno Bayen. Et Bruno, à ce moment-là, a écrit une pièce magnifique qui s'appelle Schliemann, dont il va confier le rôle principal à Antoine Vitez. Et ça va être un très, très beau spectacle qui se jouera en salle Gémie à Chaillot. Et il a besoin d'un chœur antique, d'un chœur de jeune fille grecque. Il me reçoit, on doit boire un café quelque part, et il m'engage pour jouer une jeune fille dans le chœur antique de Schliemann.
Donc vous avez trouvé du travail.
Donc je trouve du travail et je me retrouve face à Antoine Vitez et face à Bruno Bayen. Il y a aussi Jean-Quentin Châtelain, Hélène Vincent. Enfin, pareil, quoi, de nouveau une distribution tout à fait exceptionnelle.
De ces années-là, où vous l'avez dit, il y avait des matins où vous aviez plus courage, qu'est-ce que vous gardez peut-être aujourd'hui de combativité ou pas ?
Enfin, je crois qu'il y a des moments où on est tellement désespéré, on a tellement envie d'être choisi. C'est peut-être plus être choisi que jouer, d'ailleurs, finalement, qu'on est un peu prêt à tout. Et ces moments-là, c'est des moments où On fait les choses de façon totalement instinctive, je dirais. Mais on est poussé par une espèce de voix intérieure, parce qu'autour, les gens vous disent « laisse tomber »,« c'est pas pour toi »,« c'est pas ton créneau ». Enfin, on entend toutes sortes de choses qui n'ont absolument aucun intérêt, mais surtout des choses pour décourager, on va dire. Moi, j'allais au théâtre à ce moment-là, mais pas tant que ça, parce que ça coûtait pas mal d'argent. C'est toujours cher d'aller au théâtre, même dans les théâtres subventionnés. Et au cinéma, pas tant que ça non plus. Mais l'année 1981, là, je vais avoir un très grand choc en voyant les spectacles de Peter Stein à Aubervilliers, qui va mettre en scène l'Oresti avec Edith Cleaver et Jutta Lampe, et ensuite Grossenklein au théâtre de l'Odéon. Et je dois dire qu'en voyant ces femmes, c'est des espèces de déesses de la scène, ces comédiennes-femmes fantastiques, je suis totalement éblouie. Et je suis de plus en plus persuadée que c'est vraiment ça que je veux faire. Mais bon... comment concrètement, je ne sais pas, j'avance pas à pas.
La question du fait d'être une femme sur scène, c'est quand même une question qui revient. Même d'être une femme tout court, ça reste compliqué dans ce métier.
Oui, oui, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas... Enfin bon, de toute façon, il n'y a pas la parité dans notre société, mais en plus, dans notre métier, elle n'y est certainement pas, non. Je ne parle pas des salaires, hein, parce que ça, c'est sûr que ça n'y est pas, mais l'égalité des chances, je pense qu'elle n'est pas équivalente des deux côtés.
Et sur cette période d'apprentissage, vous l'avez dit avec François Florent, vous faites de l'improvisation, cet ancien collègue de Charles Dullin. Comment est-ce que vous avez commencé à développer une gymnastique de comédienne à cette époque-là, en termes d'exercice? Est-ce que vous avez des moments qui vous restent marquants, où vous aviez l'impression d'être en train de comprendre votre travail?
Je me rappelle de séances avec le petit traité de diction française. Alors les exercices avec les cailloux, avec les crayons et tout ça, oui, j'ai fait ça dans ma chambre de bonne devant une glace en étant persuadée que c'était indispensable pour avoir une très bonne diction. J'ai fait ça. Mais il est évident que l'année 81, tout d'un coup, ça va être pour moi une véritable année d'apprentissage, comme si j'étais dans un atelier de grands peintres, parce que c'est cette année-là que je vais découvrir la façon de travailler de tous les interprètes de Pergunte. Et chacun va m'expliquer comment il aborde un rôle.
Nous en parlons justement demain avec vous, Dominique Blanc. Merci.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Dominique Blanc. À voix nue, réalisation Anne-Laure Chanel, prise de son Gilles Gallinaro, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.